Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Trouver la boîte à outils parfaite pour faire face aux situations compliquées avec ses enfants n'est pas simple. Marie Chétrit a trouvé une méthode qui lui a facilité sa vie familiale, l'approche du professeur Alan Kazdin, l'un des plus grands spécialistes en psychologie de l'enfant. Elle revient dans cet épisode sur toutes les étapes clés de l'approche ABC, qui se veut bienveillante mais surtout actionnable lors de situations conflictuelles avec ses enfants. Je vous souhaite une belle découverte. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous êtes autrice en parentalité et vous avez notamment préfacé, il y a peu de temps, un livre qui s'appelle « Éduquer sans s'épuiser » par le docteur Alan Kazdin et qui se présente comme une méthode éducative qui souligne la puissance du renforcement positif et qui montre les limites de l'éducation et du time-out, entre autres. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est Alan Kazdin et en quoi sa méthode éducative est si révolutionnaire ?
Alan Kazdin est docteur en psychologie et il dirige le centre parental de Yale aux États-Unis. C'est un auteur prolifique puisqu'il a 30 ans de recherche derrière lui dans le domaine de l'éducation et des thérapies comportementales et cognitives. Il est co-auteur de plus de 750 publications scientifiques et il a également écrit une cinquantaine de livres. Et il a une grande notoriété aux États-Unis. Alors, initialement, il a travaillé avec des enfants porteurs de handicap ou avec de gros problèmes comportementaux, des élèves antisociaux ou très perturbateurs qui venaient de contextes sociaux extrêmement défavorisés. Et avec ces enfants, il a posé les bases de sa méthode. Par exemple, il raconte qu'il avait des élèves qui étaient tout le temps debout sur les tables et que grâce à cette méthode de renforcement positif, il a pu améliorer le comportement de cet élève. Et puis par la suite, il a fondé le centre parental de Yale, au sein duquel il a effectué ses premiers essais cliniques, entre guillemets, contrôlés et randomisés, tout en formant les parents, puisque en fait, dans la méthode Kazdin, ce sont les parents qu'on forme pour qu'ils puissent driver les comportements de leurs enfants. Les enfants qui étaient inclus dans ces essais étaient amenés cliniquement, c'est-à-dire dans le cadre d'un suivi psychologique. Et les résultats de ces essais ont montré qu'il y avait une amélioration de la fréquence des bons comportements, un maintien des bons résultats dans le temps, qui est quand même ce qu'on demande, hein, on ne cherche pas juste des améliorations transitoires, et puis une diminution du stress parental. Donc globalement, il y avait une efficacité chez 80% des jeunes environ. Et puis, plus tard, il a reçu des demandes de familles classiques, si je puis dire, c'est-à-dire des familles dont l'enfant n'avait pas de pathologie particulière, mais qui vivaient des situations quotidiennes conflictuelles qu'on peut tous connaître en tant que parents, comme devoir demander 10 fois avant que l'enfant aille se brosser les dents, qu'il accepte de manger des légumes, que le fait d'aller se coucher soit pas un cirque qui va durer 1h30 tous les soirs, etc. Donc, il a commencé à recevoir ces familles pour leur montrer quels étaient les leviers d'action parentaux pour induire des comportements positifs de leur enfant. Et par la suite, il a également fait un cours en ligne qui est gratuit, qui est disponible en plusieurs langues sur Coursera. Il existe d'ailleurs une version sous-titrée en français où il explique dans le détail la méthode ABC, donc qui est la méthode de son livre. Alors, pour parler un peu de sa méthode, c'est une méthode qui est dérivée des thérapies comportementales cognitives. Donc, c'est une branche de la psychologie qui est moins connue en France, où la thérapie par la parole occupe une très grande place. C'est basé sur la psychologie scientifique, donc vraiment la science du comportement, et c'est une méthode qui a un excellent niveau de preuve et d'efficacité. Alors, le but des TCC, c'est de remplacer un comportement qui est gênant pour le patient par un comportement souhaité. Et c'est la thérapie la plus efficace, par exemple, pour traiter les phobies, les patients qui souffrent de phobies, qui ont une peur panique des araignées, des phobies qui font que leur vie sociale est vraiment impactée. C'est également très efficace pour traiter les troubles anxieux généralisés ou bien les troubles obsessionnels compulsifs. Donc, dans le cas de la méthode CASDI, initialement, le but, c'était de traiter des enfants qui étaient très agressifs, très opposants ou même violents. Et puis ensuite, le but a été de donner aux parents les outils pour aider à changer efficacement les comportements de l'enfant. Donc, il y a trois catégories de leviers d'action. On va jouer sur les antécédents, c'est-à-dire comment créer un contexte favorable à la survenue du bon comportement de l'enfant. On va jouer sur les comportements, comment les induire, comment les renforcer positivement. Et puis sur les conséquences aux comportements qui peuvent être positives ou négatives.
Et qu'est-ce que vous voyez comme principaux points qui diffèrent par rapport à l'éducation traditionnelle que l'on connaît en France ?
Alors, tout dépend ce qu'on entend par éducation traditionnelle. Si on pense à l'éducation traditionnelle très autoritariste qu'on a pu connaître il y a plusieurs décennies, évidemment, CASDI réprouve totalement l'usage de la violence, qu'elle soit physique et psychologique, et recommande un usage très modéré de la punition. La technique, elle est basée sur le renforcement positif des bons comportements, ce qui va plutôt à l'encontre de nombreuses attitudes éducatives qui consistent à réprimer les comportements négatifs, et ça, c'est nettement moins efficace. Ensuite, par rapport à la conception française de l'éducation positive, du moins telle qu'elle est médiatisée, enfin c'est ce qu'on en voit, la parentalité positive qui est en cours aux États-Unis et celle qui est décrite dans les programmes parentaux type triple P, la base de cette parentalité positive, bien évidemment, c'est d'avoir des bonnes relations avec son enfant. Ensuite, il y a un premier étage qui est d'encourager les comportements positifs en faisant du renforcement positif. L'étage du dessus, c'est apprendre de nouveaux comportements à son enfant avec un cadre éducatif, et voilà, en l'encourageant à changer sur certains points. Et enfin, en dernier recours, c'est de gérer les comportements négatifs et éventuellement sanctionner si les étapes précédentes n'ont pas fonctionné. Donc, le but de cette méthode, c'est vraiment d'obtenir un résultat, c'est pas de philosopher sur le pourquoi du comment. Voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Le but, c'est d'obtenir un résultat. Et les questions qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui va favoriser la survenue de tel ou tel comportement ? Qu'est-ce qui va le renforcer ? Ou bien, au contraire, si ce comportement n'est pas souhaitable, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour éteindre ce comportement, pour l'atténuer ? Donc, la méthode CASDI, elle s'inscrit pleinement dans cette parentalité positive qui est en cours, en théorie, hein, voilà, aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon. Elle est pragmatique, elle cherche l'efficacité et elle cherche à atteindre un résultat. Disons que c'est une éducation positive qui prend en compte la famille. On vise une vie familiale harmonieuse, tant pour les enfants que pour les parents. En France, la parentalité bienveillante qui est souvent véhiculée dans les médias, elle est basée sur l'écoute des émotions et la compréhension des raisons qui mènent l'enfant à adopter tel ou tel comportement. Et ce qui est bien dans un sens, mais qui a quand même un gros écueil, c'est que c'est totalement centré sur l'enfant, pas du tout sur la famille, et que ces émotions, elles peuvent devenir très envahissantes. Si je peux, voilà, simplifier un petit peu, la parentalité bienveillante, ça va plutôt chercher à adapter l'environnement à l'enfant pour qu'il ne soit pas trop confronté parfois à des émotions désagréables, alors que la parentalité positive, telle que la conçoit Casdin, c'est apprendre à l'enfant à s'adapter progressivement à son environnement.
Et qu'est-ce qui change quant à l'attitude des parents en ce qui concerne la méthode Casdin ?
Alors évidemment, c'est le refus de la violence, c'est-à-dire on oublie les fessées, les gifles, hein, bien sûr. Déjà pour un aspect moral, parce que frapper un enfant ou lui crier dessus en permanence, bah, c'est pas acceptable pour lui et pour sa dignité, mais aussi parce que ça ne fonctionne pas. Voilà, les cris, les menaces, les sanctions excessives, ça ne donne absolument aucun résultat sur le long terme. Ça va parfois pouvoir stopper brièvement une attitude qui n'est pas souhaitable, mais sur le long terme, ça ne va rien enseigner à l'enfant. Donc, ce que demande Casdin, et qui est un peu contre-intuitif pour les parents, c'est de se focaliser sur les bons comportements pour les encourager et pour augmenter leur fréquence, au lieu de faire remarquer ce que l'enfant ne fait pas bien, ce qui est décourageant et inefficace pour l'enfant. Et il ne faut pas oublier qu'on a tous ce biais de négativité. Notre cerveau est conçu pour repérer ce qui ne va pas et le faire remarquer. Mais sur le plan éducatif, ça n'a pas grand intérêt parce qu'on n'apprend rien à l'enfant. Donc ça, c'est la première chose. Se focaliser sur les bons comportements au lieu de toujours remarquer ce qui ne va pas. Et la deuxième chose que demande Casdin aux parents, c'est de garder l'optique de l'efficacité éducative et non pas celle de la justice. Parce que en tant que parent, quand on a un enfant qui fait une grosse bêtise ou à qui il faut répéter plein de fois ce qu'il doit faire ou qui embête tout le temps ses frères et sœurs, on est souvent dans une optique de justice et de morale. On peut être tenté de punir beaucoup pour faire comprendre à l'enfant l'importance de sa faute, quand c'est le cas évidemment. Ça, c'est une optique de justice et de moralité, mais c'est pas une optique d'éducation. Voilà, c'est-à-dire que pour l'éducation, ça va pas être efficace. Ça va soulager le parent et ça va répondre à son sens de la justice, mais ça n'est pas éducatif. Et donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre dans cette méthode, c'est qu'on vise l'efficacité à long terme et comment ancrer de nouveaux comportements.
Alors, vous l'avez répété plusieurs fois, il y a un point qui est très important dans cette méthode, c'est les antécédents. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont si importants? Qu'est-ce qu'on a à comprendre sur ces antécédents et qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, par rapport aux réflexes éducatifs qu'on peut souvent avoir?
Oui, en effet, donc la méthode Casdin en américain, c'est la méthode ABC, A pour antécédents, B pour behaviors, donc les comportements en français, et C pour consequences. Donc, les conséquences, ABC en anglais, ACC en français. Alors, les antécédents, c'est tout ce qui arrive avant le comportement et qui va faire que le comportement que l'on vise va avoir une probabilité plus ou moins grande de survenir. Ça conditionne la réponse à une demande. Et en fait, assez souvent, en tant que parent, on sous-estime l'impact qu'a notre attitude générale, notre ton de voix, la tension qui peut se trouver dans nos paroles et l'impact de l'ambiance générale. Les enfants sont extrêmement sensibles à ça, à l'expression du stress parental. Je me souviens qu'une fois, mon fils me dit « Maman, t'as l'air super énervée ». Et en fait, effectivement, j'étais en train de penser à quelque chose qui n'avait rien à voir avec mes enfants, qui étaient professionnels. Et j'avais les mâchoires serrées. Je m'en suis rendu compte qu'il me l'a dit. Donc, j'avais les mâchoires serrées. Je ne vais pas avoir l'air aimable du tout. J'étais absolument pas en colère contre eux ni quoi que ce soit. Tout allait très bien. Mais ce stress que je vivais intérieurement se répercutait sur mon expression. Et lui, il l'a très bien perçu. Et ça le stressait un petit peu. Alors qu'il n'avait strictement rien fait, quoi. Donc, voilà. Ça, l'environnement, le cadre, notre attitude générale va avoir un impact extrêmement important sur la manière dont notre enfant nous perçoit. Alors, Casdin parle de plusieurs expériences en psychologie qui sont assez amusantes. Il dit, par exemple, quand vous faites des expériences, vous donnez à certaines personnes une tasse de café chaud qu'elles tiennent dans leurs mains. L'autre groupe n'a pas de tasse de café chaud. Et ensuite, on se rend compte que les personnes qui tenaient le café chaud dans leurs mains ont tendance à trouver les personnes qu'elles rencontrent plus chaleureuses. Simplement parce qu'elles avaient cette tasse de café chaud dans les mains. Enfin, il y a pas mal d'expériences en psychologie qui détaillent dans son livre, qui montrent l'importance de petites stimulations. On ne relie pas, on ne fait pas le lien après avec la tasse de café chaud qu'on avait dans les mains, mais néanmoins, cette tasse de café chaud a influé la réaction qu'on a eue ultérieurement. Donc, avec les enfants, c'est la même chose. La façon de formuler la demande va être extrêmement importante dans l'acceptation ou non de l'enfant après. C'est pour ça que Alan Kazdin détaille bien que quand on fait une demande à un enfant, il faut qu'on la fasse d'une voix aimable, avec un sourire, en disant « s'il te plaît » au début ou à la fin de la phrase, en étant affirmatif et pas interrogatif, parce que si on pose une question, ben, l'enfant peut avoir le choix de répondre oui ou non à la question. Donc voilà, on fait des phrases affirmatives et on est au contact de l'enfant. C'est-à-dire les ordres criés à la volée, comme on fait tous à un moment « maintenant c'est l'heure d'aller au bain ». Enfin voilà, votre enfant, ça lui passe au-dessus des oreilles, il est en train de jouer dans sa chambre, il vous a absolument pas entendu. Donc il faut venir se déplacer, venir à côté de lui et lui dire « maintenant s'il te plaît mon chéri, c'est l'heure d'aller au bain, tu y vas ». Et ça va être beaucoup plus efficace. Il y a aussi le fait de formuler des demandes qui sont claires et spécifiques. Par exemple, dire à un enfant, surtout à un petit enfant, « prépare-toi, on va bientôt à l'école », bah, c'est trop vague. Donc, il faut séquencer les demandes. Ça va être « habille-toi, viens prendre ton petit déjeuner, on va brosser les dents, enfile ton manteau, mets tes chaussures, on part ». Voilà. Si on dit juste « dépêche-toi, te préparer, on va bientôt à l'école », pour lui, ça fait trop d'étapes avant d'arriver au résultat. Donc, il faut formuler des demandes claires et spécifiques. Ensuite, il faut aussi, dans la mesure du possible, donner le choix, parce que quand l'enfant a un choix, même un petit choix, ça va lui donner une emprise sur ce qu'il vit. Il est plus actif. Donc, ça peut être « mets ton blouson ou ton pull, comme tu préfères, et puis on part à l'école ». Alors, c'est amusant parce que parfois, on croise des personnes dont on se dit « oh là là, mais c'est incroyable !» Les enfants l'écoutent, comment est-ce qu'elle fait, quoi ? Elle dit quelque chose et l'enfant obéit, alors que moi, avec moi, il ne fait jamais ça. Et en fin de compte, quand on fait attention, on se rend compte que ce sont des personnes qui pratiquent cette manière de formuler les demandes aux enfants. Enfin, il y a encore un autre point qui peut fonctionner, c'est avant de formuler la demande qui est importante pour nous, ça va être de formuler des demandes qui sont très susceptibles d'être honorées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, si vous dites à votre enfant « Viens me raconter ta journée en faisant un câlin sur le canapé », ça c'est la première demande. Bon, l'enfant, il est d'accord pour venir faire un câlin et raconter sa journée. Ensuite, « Est-ce que tu veux manger une part de gâteau pour le goûter ?» Bon, en général, il sera plutôt d'accord. Et la troisième demande, c'est « Allez, maintenant, on va faire les devoirs, je t'accompagne ». Et là, en faisant précéder cette demande sur les devoirs par d'autres demandes que l'enfant est très susceptible d'accepter, on augmente la probabilité que l'enfant accède à notre demande. Et ce qui est assez rigolo, c'est que les enfants pratiquent parfois spontanément cette technique. Moi, après avoir lu le livre de Kazdin, je me suis rendu compte que j'avais déjà eu ce type d'interaction avec mes enfants. Par exemple, « Maman, est-ce que tu peux m'aider à faire mes devoirs ?» Et puis ensuite, « Maman, est-ce que je mets le couvert ?» Et puis après venait la vraie demande qui était « Maman, est-ce que mon copain il peut venir jouer samedi après-midi ?» Donc, c'est rigolo parce que parfois, intuitivement, les enfants vont adopter cette technique des demandes très susceptibles d'être honorées qui vont précéder la véritable demande. Voilà, donc s'ils le font avec nous, on peut le faire avec eux aussi. Et enfin, le dernier antécédent qui peut être très efficace hein, selon les enfants, c'est de proposer un petit défi du style « bah, je parie que tu n'es pas capable de te mettre en pyjama et te brosser les dents en 5 minutes. Allez hop, on y va !» Et puis on peut aussi le transformer en jeu. Et en général, les enfants disent « mais si, je peux, tu vas voir !» Hop, et puis ils y vont vite et effectivement, en 5 minutes, le pyjama est mis et les dents sont brossées. Donc, voilà, il faut pouvoir choisir dans ces différentes techniques parce que tous les enfants ont leur caractère. Hein, donc, il y a des choses qui vont convenir à certains et pas à d'autres. Mais on peut explorer ces différentes possibilités pour que notre enfant accède à nos demandes. Et ne jamais oublier que si on fait notre demande d'une voix douce et aimable avec un sourire en disant « s'il te plaît » et à proximité de l'enfant, déjà, il y a une grande part du chemin qui est parcouru.
Après les antécédents, il y a, comme vous l'avez dit, le comportement, behavior. Comment est-ce qu'on instaure le comportement voulu une fois qu'on a mis en place ces antécédents ? Quels sont les différents outils à disposition des parents ?
Alors, concernant les comportements, le plus important, en général, quand on éduque notre enfant, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne veut pas qu'il fasse Ça, c'est, voilà, qui ne se dispute pas avec son frère, qu'il arrête de mettre les doigts dans son plat quand il mange, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas qu'il fasse. Mais ce qu'il faut trouver pour être efficace, c'est identifier l'opposé positif. C'est-à-dire, d'accord, on va faire en sorte que l'enfant n'ait plus ce comportement qu'on juge inadapté, mais on remplace par quoi ? Donc, il faut trouver l'opposé positif. Qu'est-ce qu'on va faire à la place du comportement qu'on n'aime pas ? Par exemple, si mon enfant pleurniche à chaque fois qu'il faut aller brosser les dents et qu'il les brosse 20 secondes, l'opposé positif, ça va être aller se brosser les dents calmement et les brosser 2 minutes. Voilà, il faut que l'enfant sache concrètement par quoi il remplace le comportement dont on ne veut plus. Donc ça, c'est l'opposé positif. La deuxième chose, c'est de comment on peut façonner le comportement. Alors, façonner, ça veut dire augmenter la survenue du comportement. Là, on parle d'un comportement que l'enfant a déjà, mais un petit peu. Par exemple, en rentrant à l'école, notre enfant, il fait ses devoirs, mais pendant 3 minutes et après, il s'arrête. Et nous, on voudrait qu'il travaille une demi-heure, mettons. Donc, il ne va pas passer de 2 minutes à une demi-heure en une journée. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas lui demander ça. Donc, on va y aller progressivement en renforçant à chaque étape. C'est-à-dire, l'enfant va d'abord travailler 5 minutes avec le parent à côté de lui. Et puis, le lendemain ou quelques jours après, il va travailler 10 minutes. Et ainsi de suite, on va augmenter peu à peu le temps. Puis après, le parent va s'effacer. C'est-à-dire, va commence tes devoirs. Moi, j'arrive dans 5 minutes et je continue avec toi. Et donc, progressivement, le parent va s'effacer, mais l'enfant va garder l'habitude qu'il a acquise. Donc ça s'appelle le façonnement du comportement. On peut aussi décomposer en étapes. Voilà, comme je le disais tout à l'heure pour le départ à l'école avec toutes les étapes qui sont préalables. Par exemple, range ta chambre, c'est quelque chose qui est beaucoup trop vague. Parce que range ta chambre, ça recouvre beaucoup d'actions dans la chambre. Donc, il faut dire, ramasse les vêtements sales et mets-les au panier. Ensuite, mets les livres dans la bibliothèque. Et puis, ramasse les Playmobil et mets-les dans la caisse. Voilà, on décompose et comme ça, l'enfant va apprendre le bon comportement. Alors, bien sûr, on peut l'aider. Hein. On peut dire, tu ramasses un vêtement et moi, je ramasse l'autre, et ainsi de suite. Enfin, qu'il sente qu'il est soutenu dans l'effort qu'il fait. Une autre technique, quand on veut apprendre un nouveau comportement, c'est de faire des jeux de rôle. Alors, les jeux de rôle, c'est quand l'enfant vraiment n'a pas du tout le comportement qu'il ne le connaît pas. Ça va permettre de s'exercer, c'est une sorte d'entraînement dans un contexte serein. Donc, l'exemple que donne Alan Kazin dans le livre, c'est l'exemple du jeu de la colère. Il parle d'une petite fille qui fait des colères terribles sous plein de prétextes divers dans la journée. Donc, elle se roule par terre dès que ses parents lui résistent ou lui demandent de s'habiller, ou voilà, elle fait vraiment beaucoup de colère, extrêmement violente, où elle tape ses parents, elle crie, elle jette des objets. Et toutes les colères sont comme ça. Donc les parents sont un petit peu perdus, et ce que Alan Kazin met en place avec eux, c'est le jeu de la colère. Donc dans un contexte où la petite fille est calme, ils vont lui dire, écoute, voilà, on va faire un nouveau jeu, ça s'appelle le jeu de la colère, et si tu réussis, tu vas pouvoir gagner des jetons ou des gommettes, voilà, enfin, un petit renforçateur. Et lors de ce jeu, là, les parents expliquent à l'enfant, voilà, donc pendant cette colère, tu vas pouvoir crier et te rouler par terre, mais tu donnes pas de coups de pied et tu jettes pas d'objets. Donc, vas-y, maintenant, tu vas me poser une question, je vais te répondre non et tu vas faire une bonne colère. Et donc, voilà, donc la maman... La petite fille pose une question, puis parce que c'est aussi un petit peu rigolo comme jeu. Hein. Maman, est-ce que je peux regarder une vidéo ? La maman répond, non, tu ne peux pas, ce n'est pas le moment. Et là, la petite fille joue à faire la colère. Et ensuite, bah, la maman la félicite, lui dit, oh là là, c'est vraiment super, disons que tu as fait cette colère, mais tu ne m'as pas donné de coup de pied. Et puis, tu n'as pas jeté d'affaires par terre. Bravo, je te félicite. Et voilà, elle donne des petites gommettes à sa fille. Et comme ça, elle va répéter ce jeu de rôle plusieurs fois. Et en fait... Quand la petite fille va vraiment faire une colère, ce qui arrivera, eh bien, petit à petit, ce jeu de rôle va lui permettre d'intégrer la manière d'exprimer sa colère de manière souhaitable et même les épisodes de colère vont diminuer petit à petit. Et donc, c'est ce qu'il décrit dans le livre, c'est que très rapidement, les colères ont été beaucoup moins violentes, il y en a eu beaucoup moins et c'est devenu gérable pour les parents. Il y avait encore des colères, hein, bien sûr. Le but, c'est pas de faire des enfants parfaits, pas du tout. Mais c'est que voilà, que ce soit acceptable pour les parents, et que même pour l'enfant, enfin pour lui, pour sa vie sociale, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc voilà, et très important évidemment, pour renforcer ces comportements, eh bien, il y a les conséquences positives, dont la louange spéciale, dont je pense qu'on va reparler.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, c'est qu'il y a une dernière partie dans cette méthode ABC, c'est le C, les conséquences. Est-ce que vous pourriez nous dire quel type de conséquences il peut y avoir à ces comportements ?
Alors, les conséquences, c'est donc ce qui vient après le comportement. Alors, il y a plusieurs types de conséquences. Il y a des conséquences positives qui vont être les félicitations, la louange spéciale qui est l'outil de loin le plus efficace. Alors, pour s'arrêter sur la louange spéciale qui est vraiment l'outil emblématique de la méthode Casdin, la louange spéciale, c'est une félicitation, mais pas juste en passant. C'est pas juste « Oh, bravo, c'est bien ». Voilà, non, c'est pas ça. C'est vraiment des félicitations qui sont effusives, enfin surtout pour les jeunes enfants qui sont très sensibles à ce côté affectueux. Donc on va vraiment féliciter l'enfant, le toucher physiquement, lui faire un petit câlin ou l'embrasser. Elle doit être immédiate, c'est-à-dire venir tout de suite après le comportement, pas demain, pas la semaine prochaine, voilà, tout de suite après le comportement. Et elle doit être précise, c'est-à-dire « Oh là là, vraiment, je suis très fière de toi ». T'as réussi à faire une bonne colère ou t'as pas tapé des pieds par terre, je te félicite, viens, je te fais un petit câlin, donc on serre l'enfant contre soi. Voilà. Donc, ça doit être effusif, immédiat, précis et accompagné d'un geste physique. Alors, on peut également utiliser comme conséquence positive des tableaux à points qui viennent en support de la félicitation mais qui ne le remplacent pas. Ça, c'est très important. Les tableaux à points ou l'économie de jetons ou voilà les petits tableaux à gommettes qu'on colle comme ça, ça vient en plus de la félicitation, mais c'est pas suffisant. C'est bien soutenir parce que certains enfants, ils sont plus sensibles. Donc voilà, c'est un outil de plus. Ça, c'est pour les conséquences positives. Les conséquences négatives, ou plutôt les conséquences aversives, c'est-à-dire aversives dans le sens où ça va dissuader l'enfant de recommencer le comportement, eh bien, ce sont les sanctions, dont on reparlera aussi, je pense. Et puis, il y a aussi l'absence de conséquences, mais qui a des effets quand même, c'est-à-dire l'absence de réaction. C'est l'ignorance, en fait. C'est-à-dire quand on ne réagit pas, bah, ça a un effet sur l'enfant. Donc, les conséquences, pour résumer, c'est la réaction parentale qui va venir renforcer ou pas le comportement que l'enfant a eu. Donc, si c'est un bon comportement, bah oui, on va renforcer positivement par la louange spéciale et par des points qu'on gagne ou des gommettes. Et si le comportement n'est pas souhaité, eh bien, il y aura des conséquences négatives ou une absence de conséquences.
Vous avez parlé plusieurs fois dans les explications du renforçateur. Et je vois donc une subtilité entre renforçateur et récompense. Pourquoi est-ce que c'est important de parler plutôt de renforçateur et d'éviter le mot récompense ?
Alors, une récompense, c'est quelque chose qui est identifié par l'enfant comme lui faisant plaisir. Par exemple, aller faire un tour de manège, aller manger une glace, lui acheter un petit jouet qu'il a vu, etc. Donc, c'est quelque chose dont l'enfant sait que ça lui fait plaisir. Un renforçateur de comportement, c'est pas forcément identifié par l'enfant comme quelque chose qu'il aime ou qui lui fait plaisir. Par exemple, votre enfant ne va pas vous dire « Ah ben moi, j'aime bien quand tu me presses l'épaule ou que tu me fais une petite caresse. » Enfin voilà, il n'identifie pas comme quelque chose qui va renforcer son comportement. Mais pourtant, ça permet d'ancrer très efficacement les comportements que l'on souhaite. Alors, certaines récompenses peuvent être des renforçateurs, mais pas toutes. C'est-à-dire, c'est pas forcément réciproque. Et ce qui est surtout important, c'est que quand on a choisi un bon renforçateur, quand on arrête de prodiguer ce renforçateur, le comportement, il est maintenu. Alors que quand on arrête la récompense, ben, le comportement peut parfaitement bien s'arrêter. C'est pour ça que Casdin met vraiment en garde contre les récompenses matérielles. Par exemple, dans un tableau à points, on ne va pas acheter des cadeaux en échange des points. C'est-à-dire, c'est pas « Ah ben, j'ai 10 points, donc j'ai droit à une pochette Pokémon, quoi ». Où, voilà, on évite ce style de cadeau parce que c'est un peu la porte ouverte au marchandage. Il faut vraiment favoriser la louange spéciale, l'attention, l'affection, enfin voilà, qui est l'outil le plus efficace plutôt que les récompenses matérielles. Et on peut échanger ses points quand on fait un tableau à points. On peut échanger ses points contre des privilèges qui sont pas matériels. Par exemple, Eh bien, ce soir, tu peux éteindre un quart d'heure plus tard que d'habitude. Voilà. Ou bien, je vais te lire exceptionnellement une deuxième histoire. Ou bien, tu vas choisir le menu de ce soir. Voilà, ça, c'est un privilège qui n'est pas matériel. Et c'est beaucoup plus efficace que les récompenses matérielles, style petit jouet. Parce que avec les récompenses matérielles, l'enfant peut vite avoir tendance à dire « je fais le comportement pour avoir cette récompense, et si j'ai pas la récompense, je fais pas le comportement ». Et c'est pas du tout ce qu'on recherche, hein, bien évidemment.
Oui. Alors, comme vous le savez, les punitions animent beaucoup l'espace médiatique en ce moment en France. L'idée, c'est pas de venir polémiquer maintenant sur le sujet, mais je trouve ça quand même intéressant. Dans le livre d'Alan Kazdin, il parle des punitions et met en avant l'importance de les limiter. Est-ce que vous pourriez nous redire qu'est-ce qu'il partage à ce sujet et quel est son point de vue sur les punitions ?
Les punitions, elles ne viennent qu'en complément du renforcement positif. C'est-à-dire, utiliser les punitions seules, ça n'a aucun intérêt pour éduquer l'enfant. Ça ne sert à rien. Ce que dit Kazdin, c'est qu'il faut au moins 5 actes de renforcement positif pour une seule punition. Voilà. Donc, ça montre un peu le ratio. Et c'est ce qu'on voit dans la pyramide des interventions parentales. Donc, à la base, il y a la relation avec l'enfant. Ensuite, il y a l'encouragement des bons comportements par le renforcement positif. Ensuite, il y a l'apprentissage de nouveaux comportements. Et tout en haut de la pyramide, il y a la gestion des mauvais comportements par éventuellement la sanction. Donc, ça vient en dernier recours. Et c'est pas pour rien. C'est parce que ça n'est pas efficace en soi. Ça, en fait, ça n'enseigne pas le bon comportement. Voilà. Ça montre quel est le mauvais comportement, mais ça n'enseigne pas quel est le bon comportement. Ensuite, vous le savez bien, il y a punir et punir. Hein, tout dépend ce qu'on met derrière le terme de punition. Mais quand les punitions, c'est des gifles ou des fessées, ça rend l'enfant agressif, ça dénature la relation avec le parent ou avec les enseignants si c'est dans le cadre scolaire. Et puis, c'est pas parce qu'un enfant pleure que la punition est efficace, quoi. Il peut être extrêmement mortifié par la punition. Pour autant, s'il n'y a pas de renforcement positif à côté, si on ne lui apprend pas ce qu'il faut faire, ça ne changera pas son comportement. Par ailleurs, il y a aussi le fait que l'adulte s'habitue à punir et va rentrer dans un cercle vicieux où il va punir de plus en plus fort, parfois ça peut arriver, et l'enfant également s'habitue à la punition, donc on rentre dans un cercle vicieux extrêmement négatif qui n'a aucune vertu éducative. Donc, dans la méthode Kazdin, les punitions, elles doivent être très légères, très brèves, car ce qui est efficace, c'est les premières minutes de la punition, c'est pas 2 jours de punition, quoi. Oui. Une punition, ça peut être par exemple ce qu'on manifeste à l'enfant. Donc un regard d'avertissement, où là, clairement, le parent a l'air de dire « Oula, là, ça va pas, là, tu arrêtes », c'est efficace. Compter jusqu'à 3, non, c'est pas très efficace. Et faire des réprimandes du style « j'en peux plus de toi », tu fais toujours les mêmes bêtises, etc. Ça soulage le parent, mais c'est pas du tout efficace. Donc, dans la méthode Kazdin, ce qui privilégie comme punition, si besoin est, c'est le retrait d'événements positifs. Donc, ça va être le time-out, parce que parfois, l'enfant n'est pas raisonnable au sens premier du terme, on peut pas le raisonner. Et la présence parentale sert de renforçateur à la colère. C'est-à-dire, si vous êtes là à côté de votre enfant pendant qu'il fait une très grosse colère, et que vous êtes là à essayer de lui parler, etc., vous allez en fait amplifier la colère et la faire durer beaucoup plus longtemps. Donc, parfois, il est plus bénéfique de se retirer de la présence de l'enfant et sa colère va passer, puis après, on peut venir en reparler, quoi. Donc, il faut le time-out, en fin de compte, ça consiste à retirer à l'enfant ce qui va renforcer son comportement et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'autre but. Un autre point, enfin une autre sanction possible, c'est le retrait d'attention. Ignorer l'enfant qui a un comportement pas souhaitable. Par exemple, vous avez l'enfant ne veut pas aller en time-out, vous l'avez déjà répété 10 fois, maintenant ça suffit, tu vas dans ta chambre, il ne veut pas y aller. Bon, vous n'allez pas le traîner par les pieds en hurlant pour le mettre dans sa chambre, ça ne sert à rien. Donc, si l'enfant persiste à refuser ou défie le parent, eh bien, on va l'ignorer. Alors, Kazdin donne l'exemple d'un enfant de 3 ans qui tape sa mère, qui a déjà eu plusieurs avertissements, on ne tape pas maman. Bon, si l'enfant continue à taper, on l'ignore. C'est-à-dire, pendant quelques minutes, on ne le regarde pas, on ne fait aucun geste, on n'y prête aucune attention. Et en général, ça va suffire à atténuer le comportement de l'enfant. Enfin, une autre conséquence, ça peut être le retrait de privilèges. Ça fonctionne si la punition, là encore, elle est mesurée, elle est réaliste et elle est brève. Donc, ce n'est pas la peine d'imposer 15 jours de privation de télé. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas mieux. Ça peut être juste, voilà, aujourd'hui, tu n'auras pas le droit de regarder les dessins animés. Voilà. Dans la mesure où l'enfant a déjà transgressé plusieurs fois, hein, comme toujours. Ce n'est pas un outil de première attention.
Oui.
Et puis, on peut également, parfois, à des enfants un peu plus grands, leur faire réaliser une tâche. Mais par exemple, je ne sais pas, tu vas passer l'aspirateur ou tu vas tondre le jardin ou, suivant son âge. Et la même chose, ce n'est pas la peine de mettre 15 jours de corvée à l'enfant. Quoi. Ça ne sert à rien. Ouais.
En quoi, vous, cette méthode, elle vous a accompagné dans votre quotidien familial?
Alors moi, c'est une méthode que j'ai adoptée pour favoriser l'autonomie de mes enfants. Par exemple, le brossage de dents, qui est quelque chose avec lequel je me suis beaucoup battue. Voilà, pour le brossage de dents, j'ai utilisé le défi. Donc, je parie que tu n'es pas capable d'avoir brossé tes dents et que dans 5 minutes, tu es déjà dans ton lit pour qu'on raconte l'histoire. Bah, ça a très bien marché pour un de mes enfants. Mmh. En quelques semaines, j'ai obtenu un brossage de dents régulier tous les soirs, etc., sans avoir besoin de le répéter 15 fois. Quoi.
Ouais.
En ce moment, j'ai une petite rechute sur la question de la tenue à table, dans la mesure où ils mangent avec leurs doigts et pas avec leurs couverts. Donc, j'ai dit longtemps, hein, comme beaucoup de parents, « Oh, mais tu manges vraiment pas proprement, c'est pénible à ton âge. » Enfin bon, évidemment, ça ne marche pas du tout. Donc là, je remets en place un programme de renforcement positif où je les félicite abondamment. Donc, je fais ce que dit Casdine, quoi. C'est-à-dire, si tu manges ton plat avec tes couverts, c'est-à-dire pas tout le repas, hein, mais pour le moment, c'est juste le plat, eh bien, tu auras une étoile et tu pourras gagner des privilèges. Bon, le premier repas, ils ont mangé avec leur couvert du début à la fin, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement efficace. Et puis, toujours en le joignant à la louange spéciale. Et puis, ouais. Suite à ce que m'avait dit mon fils sur l'air stressé que j'avais parce que je serrais les mâchoires, bah, vraiment, je fais beaucoup plus attention aux antécédents et à la manière dont je me comporte avec eux. Enfin, quand je dois leur demander quelque chose, je fais attention à mon expression générale, etc., pour que ce soit plus facile pour eux.
On a une question rituelle maintenant pour terminer tous les épisodes de notre podcast. Et j'aimerais bien que vous y répondiez avant qu'on se quitte. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain?
Je souhaiterais que les courants éducatifs puissent avoir un discours qui soit orienté évidemment sur le bien-être de l'enfant, puisque c'est fondamental pour les futures générations, mais également pour la sérénité dans les familles. Voilà, je pense que pour l'éducation, il faut que personne ne soit oublié. Il faut que les enfants soient bien traités et entourés pour en faire des adultes épanouis et sereins. Et il faut aussi que les parents ne s'oublient pas et soient heureux dans leur vie de famille pour que ça ne devienne pas une montagne à gravir.
Super, et ben merci beaucoup Marie pour toutes ces explications et j'invite évidemment les auditeurs à se procurer ce livre tout juste sorti aux éditions Solar, je rappelle, qui s'appelle Éduquer sans s'épuiser.
Merci.
À bientôt, au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de demain.